Je suis vraiment tout à fait ravie d'être ici dans ce cadre grandiose pour vous parler un petit peu de Jean Santerre. Donc le personnage de Jean Santerre n'est jamais vraiment sorti de la conscience historique partagée. Les histoires de l'Angleterre, dès le XVe siècle, consacrent de longs passages à ce personnage. Le théâtre shakespearien aussi, et puis la geste de Robin des Bois. Mais la perception que nous avons du personnage aujourd'hui repose en grande partie sur le roman historique très talentueux, un superbe roman publié par Walter Scott en 1820, Ivanhoé, en fait fin 1819, mais début 1820 officiellement. Alors, le problème du roman de Scott, enfin pour avoir une idée du règne de Jean Santerre, c'est qu'il situe l'action non pendant le règne de Jean, Jean a régné de 1199 à 1216, mais pendant la croisade, puis la captivité du frère de Jean, donc Richard Cœur de Lion, captivité dans les geôles impériales, donc au début de la décennie 1190. Et dans ce roman magnifique, on voit Jean comploter avec Philippe Auguste, le méchant roi capétien, dans l'espoir de prendre le trône avant, évidemment, à la fin, de devoir se soumettre à son frère enfin libéré. Et ce récit continue à inspirer très largement la littérature populaire, le cinéma, qu'il s'agisse donc d'adaptations littérales du roman, comme c'est le cas ici avec le fameux Ivanhoé de 1952, ou bien de transpositions qui sont destinées à donner davantage d'importance aux personnages complètement fictifs, faut-il le rappeler, de Robin des Bois. Et dans tous ses films, dans tous les romans, Jean apparaît toujours comme lâche, cruel, et son caractère, évidemment, contraste complètement avec celui du valeureux Richard. Alors, le personnage construit par Scott n'est pas totalement fantaisiste. Dans les chroniques de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, déjà donc du vivant de Jean, celui-ci est peint sous un jour peu flatteur. Il apparaît léger, influençable, peu capable, et en même temps, il est dépeint comme étant ambitieux et cruel et prêt à tout pour obtenir le pouvoir. Alors, ce jugement des chroniqueurs ne fut pas fondamentalement modifié après l'accession au trône de Jean en 199, après la mort de Richard au siège de Chalus dans le Limousin. Les chroniqueurs, et alors les historiens modernes leur emboîtent largement le pas, soulignent sa faiblesse face à Philippe Auguste notamment, ses erreurs de jugement, en particulier son mariage avec Isabelle d'Angoulême. Ils mettent aussi en évidence son incapacité à conserver l'héritage familial en France, donc le grand consortium de terres qu'Henri II avait construit au milieu du XIIe siècle et qui s'étendait des Pyrénées à la frontière écossaise et que les historiens aujourd'hui appellent souvent l'Empire plantagenêt de manière un petit peu abusive. Et là, vous avez deux représentations cartographiques un petit peu différentes donc de l'étendue de cet empire. Il est également incapable, d'après les chroniqueurs comme les historiens, de conserver la fidélité de ses barons en Angleterre. Et ses défauts personnels, et en particulier sa cruauté, qu'on voit représentée ici dans un manuscrit des années 1240, qui est dû au chroniqueur de Saint-Albans, Mathieu Paris, et il vous montre en fait les exactions des hommes de Jean dont souffre la population. Évidemment, c'est le genre d'image qui soulève un petit peu le cœur et qui renforce cette impression de cruauté. Quant à son comportement à l'égard de l'Église, il est marqué par son refus de trouver un compromis dans le conflit né de l'élection à l'archevêché de Canterbury d'Étienne Langton. C'était le choix du pape, pas celui de Jean. Et finalement, quand il lui faut céder à la pression du pape, parce qu'il est vraiment sur le point, en 1213, de perdre son trône, Jean ne trouve pas mieux pour dénouer la crise que de remettre l'Angleterre en fief à la papauté. Et l'humiliation qui en résulte pour le royaume, comme pour l'Église d'Angleterre, est résumée dans une image peinte, toujours par le chroniqueur Mathieu Paris, là, entre, on pense assez tardivement, entre 1255 et 1259, et on y voit donc à Jean, on y voit Jean assis sur un trône, avec une église qui est placée non pas dans sa main, comme c'est l'habitude hein, pour ce genre de représentation, mais derrière lui, hein, il tourne le dos à l'église, alors que la couronne glisse de sa tête, ce qui est très certainement une allusion à la remise en fief de l'Angleterre à la papauté. Alors, dans cette image négative de Jean, la perte des territoires en France, et en particulier du duché de Normandie, symbolisé par la reddition de Rouen à Philippe Auguste le 24 juin 1204, joue un rôle majeur. Et Jean lui-même semble avoir été tout à fait conscient de ce que cette perte signifiait. Toutefois, jusqu'à la fin de son règne, il garda l'espoir de pouvoir reprendre pied en France et multiplia les efforts pour monter des expéditions militaires, ce faisant exerçant une pression quasi insupportable sur ses sujets anglais afin d'obtenir l'argent et les troupes nécessaires à ses entreprises, l'argent notamment pour payer les mercenaires. Et c'est à la suite de la défaite décisive de ses alliés à Bouvines, le 27 juillet 1214, qu'il confronte ses barons en Angleterre, les accusant donc de ne pas l'avoir soutenu, alors qu'il lui reproche son incapacité et la tyrannie qu'il exerce dans le royaume. Et finalement, en juin 1215, Jean est obligé de concéder aux barons une charte de liberté qui allait être amené sous le nom de Grande Charte, Magna Carta, à devenir un cri de ralliement politique. Et alors là, vous avez une représentation du XIXe siècle. On voit Jean en train de signer la Grande Charte, ce qui évidemment est tout à fait anachronique. Elle n'a jamais été signée. Et ici, elle a été scellée hein, par son chancelier. Et ici, vous avez quatre copies conservées de la Grande Charte dans sa version de 1215. Et alors, de manière assez ironique, le premier grand texte des libertés anglaises est associé à l'un des pires règnes que l'Angleterre ait connu. Alors, cette concession ne put toutefois empêcher la guerre civile. Et Jean mourut l'année suivante, en octobre 1216, épuisé par une lutte incessante. Alors, ce qui est tout à fait curieux, ça nous écarte un tout petit peu de la Normandie, mais j'en dis quand même un mot, c'est que sur le moment, personne n'a parlé d'empoisonnement. Et puis, dans les dernières décennies du XIIIe siècle, la légende de l'empoisonnement de Jean Santerre par un moine cistercien commence à prendre corps. Là, on voit une image de l'extrême fin du XIIIe au début du XIVe siècle. Vous avez un moine cistercien en train d'offrir ce qui ressemble à un calice avec du vin empoisonné à Jean Santerre. Et tout à fait curieusement, à l'époque protestante, au moment de la Réforme, Jean Santerre a été considéré comme étant un martyr proto-protestant, une sorte de proto-martyr protestant plutôt, parce qu'il avait été empoisonné par des moines. Et la pièce de Shakespeare, donc, qui date des années 1590, en fait, se termine avec l'empoisonnement de Jean Santerre. Alors, ce n'est pas une bonne pièce, pour commencer, et puis évidemment, c'est assez loin de l'image qu'on a de Jean Santerre dans la culture populaire, donc c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles elle est peu jouée. Alors, si les chroniqueurs sont unanimes ou presque à condamner Jean, et cela de son vivant, aux yeux des historiens, malgré tout, tout n'est pas négatif dans l'action de ce roi. Les travaux scientifiques modernes reconnaissent généralement à Jean une maîtrise des techniques administratives et un intérêt pour l'activité de son gouvernement. Toutefois, c'est bien à ses défauts personnels, à ses erreurs politiques et militaires, qu'on attribue l'échec et la crise du règne, ainsi que la désagrégation donc, du grand empire Plantagenet. Alors ce soir, ce que je vais faire donc, dans les 40 ou 50 minutes que j'ai, c'est insister un petit peu sur la question de la perte de ces territoires en France, et en particulier de la perte de la Normandie, et sur le rôle que cette perte a joué dans la construction d'une image extrêmement négative du personnage de Jean. Alors, je vais d'abord un petit peu revenir en arrière et rappeler pour commencer que Jean donc, était le dernier né des 8 ou 9 enfants du couple formé par Henri II, Plantagenet et Aliénor Aquitaine. Il est sans doute né à Londres, sans doute en décembre 1166 et non 1167 comme on le voit souvent, et très tôt, donc ici vous avez un arbre généalogique que j'ai essayé de faire, mais alors, ils ont eu tellement d'enfants que j'ai dû passer à la ligne, voilà, donc ça c'est le dernier, et très tôt il a suivi sa mère en France, tout permet de penser, donc il a passé sa petite enfance à Fontevraud. Alors après l'écrasement de la rébellion d'Aliénor et de ses fils en 1174, et la fameuse fresque de Sainte-Radegonde à Chinon représente peut-être le départ d'Aliénor vers l'Angleterre, puisqu'elle a été emprisonnée jusqu'à la mort de son mari. On pense que le jeune Jean, donc tout enfant, a suivi son père en Angleterre, et dans les années qui suivent, on le voit suivre la cour royale dans ses déplacements, notamment en Normandie, on sait qu'il est en Normandie, en 1178 et en 1179, et son père lui remet, alors qu'il est encore enfant, lui remet des rentes en Normandie et deux châteaux. Alors, il fallut toutefois attendre la mort de Henri II en juillet 1189 et l'accession donc, de Richard Cœur de Lion sur le trône pour voir Jean resserrer ses liens avec le duché. Richard remit en effet à son frère, en septembre 1189, le comté de Mortain, qui comprenait alors non seulement les seigneuries relevant du comté en Normandie, mais également des terres assez importantes, hein, jusqu'à 200 fiefs de chevaliers, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et Richard autorisa également Jean à épouser Isabelle de Gloucester, à qui il était fiancé depuis très longtemps, mais Henri II n'avait jamais voulu que le mariage ait lieu. Il autorise le mariage, et Isabelle de Gloucester est une très riche héritière qui lui apporte, en plus d'un héritage très important dans l'ouest de l'Angleterre, des terres en Normandie. Et à ce moment-là, on trouve dans l'entourage de Jean plusieurs Normands, dont Bertrand de Verdon. Alors, donc des attaches qui se renforcent au moment de l'accession de Richard. Celui-ci part aussitôt quasiment en croisade, interdisant à son frère de rentrer en Angleterre. Jean prête serment de ne pas rentrer en Angleterre avant 3 ans, et puis, en fait, il viole immédiatement ce serment, sans doute soutenu par sa mère Aliénor, et rentre en Angleterre. Et là, en Angleterre, pendant l'absence de son frère, il tente de miner l'autorité de Guillaume de Longchamp, qui est donc un Normand, le chancelier et justicier à qui Richard avait remis la garde du royaume, et puis ensuite, dans un second temps, apprenant la captivité de son frère, Richard a été, au moment du retour de la croisade, arrêté par le duc d'Autriche et ensuite jeté dans les geôles impériales, il se rapproche de Philippe Auguste. Et à plusieurs reprises, donc pendant que Richard est en prison, Jean joue le va-tout, essaie de faire pression sur la noblesse normande pour qu'elle se rallie à lui, essaie également qu'on lui remette les forteresses ducales en Normandie, sans succès, et il passe même un accord au cours de l'année 1193 avec Philippe Auguste, il se rend à Paris, et Philippe Auguste accepte de tout faire pour qu'il prenne non seulement le contrôle de la Normandie, mais également de l'Angleterre. Alors, évidemment, les choses ne se sont pas déroulées de cette manière. Richard Cœur de Lion a été finalement libéré au début de l'année 1194, et à ce moment-là, Jean, prenant peur, se réfugie en Normandie au début de l'année 1194, et il passe un nouvel accord avec Philippe Auguste. Et les termes du traité de janvier 1194 sont tout à fait révélateurs de la manière dont Jean, à ce moment-là, considère l'ensemble de l'héritage plantagenêt. En fait, l'accord montre qu'il est prêt à remettre toute la Normandie à l'est de la Seine, sauf Rouen, à Philippe Auguste, ainsi que plusieurs forteresses sur la rive gauche, à l'ouest de la Seine, Évreux, le Vaudreuil, le Neubourg, Verneuil, et également, en dehors de la Normandie, un certain nombre de châteaux et de villes dans la vallée de la Loire. Et Philippe Auguste, aussitôt, fait pénétrer ses troupes en Normandie. Alors, les historiens ont eu beaucoup de mal à expliquer l'ampleur des concessions de janvier 1194. Ce qui est certain, c'est que les sacrifices territoriaux consentis par Jean au profit de Philippe Auguste dans la partie orientale de la Normandie reflète sans doute le peu d'attachement qu'il a à l'intégrité de la Normandie. J'irai plus profondément, en fait, l'accord de janvier 1194, bon, qui ne s'est pas réalisé, hein, puisque Richard en fait, rentre en Angleterre au mois de mars, et puis ensuite parvient à redresser la situation en sa faveur. Mais l'accord lui-même est tout à fait intéressant, et ce qu'il montre, c'est qu'à ce moment-là, Jean est prêt, en fait, à scinder l'héritage paternel en deux parties. Lui-même aurait tenu les terres en France, dans le royaume de France, en prêtant l'hommage à Philippe Auguste, et Richard se serait contenté des terres insulaires. Alors, il est possible également qu'il envisage à ce moment-là une domination séparée en France, mais sans être véritablement soutenu suffisamment en Normandie. En tous les cas, Richard est présent en Angleterre, puni pour commencer très sévèrement tous ceux qui ont soutenu son frère. Lui-même repasse en France au printemps 1194, et à ce moment-là, vous avez une réconciliation qui a lieu en mai 1194. Richard pardonne à son frère, celui-ci va passer par une sorte de traversée du désert, mais son frère lui pardonne, notamment parce que Richard, à ce moment-là, n'a pas d'héritier direct pour lui succéder. Son frère cadet est finalement le seul héritier le plus proche. Il est possible, enfin, dans ce jeu de 1193-1194, que Jean ait compris à un moment donné que sans Philippe Auguste, rien ne pouvait être fait. En Normandie même, il y avait sans doute assez peu de familles prêtes à le soutenir, sans doute parce que beaucoup de ces familles avaient payé très cher leur implication dans la révolte des fils d'Henri II contre leur père en 1173-1174. Et la perspective, avec le retour de Richard Cœur de Lion, de nouvelles dissensions familiales, voire d'une guerre dynastique doublée d'une guerre civile, était assez peu attrayante. Ce qui a peut-être aussi fait reculer les Normands en 1193, c'est l'alliance même entre Jean et Philippe Auguste, qui pouvait déplaire à une partie des élites normandes et des élites urbaines. Et ce qu'on a également souligné, c'est que finalement, même en étant présent en Normandie, Jean ne parvient pas à construire de véritables réseaux d'influence. Pourtant, il est comte de Mortain, c'est une seigneurie tout à fait importante, mais il n'a pas de véritable réseau d'amitié, et les grandes familles normandes sont assez peu représentées dans son entourage. Et il y a quelque chose qui est tout à fait révélateur, c'est la campagne de diffamation qui a été menée par Jean lui-même et son entourage contre Guillaume de Longchamp en Angleterre. Guillaume de Longchamp était un Normand, et Jean et son entourage n'ont eu de cesse de le dénoncer comme étant un étranger à la communauté anglaise. Donc cela reflète peut-être le fait que lui-même, finalement, se sentait davantage anglais que normand. Alors, c'est donc l'année 1193 est tout à fait décisive. Cette période se termine pour lui sur un échec. Après avoir reçu le pardon de son frère, ce qui est malgré tout assez curieux, c'est qu'il passe le reste du règne quasiment complètement en Normandie. Alors, après quelques mois un petit peu difficiles, donc il reprend du service auprès de Richard, le sert en fait de manière très fidèle, et Richard lui concède des droits dans la forêt de Lillebonne, ainsi que des droits dans le port de Dieppe, sans compter des rentes assez importantes sur le domaine ducal. Alors, Richard, à ce moment-là, à la fin de son règne, est sans doute conscient du fait que Jean est le mieux placé pour lui succéder. Il n'a toujours pas d'enfant. Il s'est marié avec Bérangère de Navarre, mais il n'a pas d'enfant. Alors, à un moment donné, Richard avait envisagé une autre possibilité, c'était de laisser l'héritage à son neveu Arthur de Bretagne, donc le fils de son frère défunt Geoffroy. Arthur de Bretagne était un enfant posthume. Et en partant en croisade, Richard s'arrête en Sicile et à un moment donné passe un traité avec le roi de Sicile et désigne Arthur comme son héritier. D'ailleurs, c'est cette désignation très certainement qui a poussé Jean à se révolter contre son frère. Donc il y avait cette possibilité, mais véritablement à la fin de son règne, semble-t-il, Richard n'y pense plus et c'est Jean qui s'impose. Cela dit, après la mort de Richard en avril 1199, et en dépit du soutien très actif d'Aliénor, Jean dut lutter âprement pour s'imposer comme le successeur de son frère. Arthur qui est un adolescent à ce moment-là, est soutenu par Philippe Auguste, qui accepte l'hommage d'Arthur donc, pour la Bretagne, pour l'Anjou, le Maine et la Touraine, mais pas pour la Normandie, et qui le soutient également par des opérations militaires au cours desquelles Jean faillit bien être capturé. Alors Jean, de son côté, parvient à mettre la main sur le trésor de Richard qui est entreposé à Chinon, parvient aussi à se rallier une partie de l'ancien entourage de Richard par des promesses de bon gouvernement et sans doute des promesses beaucoup plus concrètes, des concessions secrètes. Et il envoie des émissaires en Angleterre pour essayer de traiter avec la noblesse, avec les prélats. Et lui-même, à ce moment-là, donc avril et début mai 1199, fait porter l'essentiel de ses efforts sur la Normandie. Et ce calcul a été payant, même si on pense que c'est sans doute par défaut, finalement, que les Normands l'ont reconnu comme leur duc. En tout cas, au bout de quelques semaines, Jean est couronné duc de Normandie à Rouen le 25 avril 1199. Et cette cérémonie d'intronisation, très solennelle, c'était la deuxième fois qu'on avait une grande cérémonie d'intronisation ducale après celle de Richard, est décrite en fait de manière assez contrastée par les chroniqueurs. Alors un chroniqueur en fait un moment très solennel en disant « Il fut saint du glaive de Normandie dans l'église mère par la main de Gauthier, archevêque de Rouen, et le dit archevêque posa sur la tête du duc le cercle d'or qui a son sommet tout autour des roses d'or, et le dit duc, devant le clergé et le peuple, jura sur les reliques des saints et sur les évangiles que lui-même conserverait indemne la Sainte Église et ses dignités avec bonne foi et sans mauvais esprit, et qu'il exercerait la droite justice et qu'il détruirait les lois iniques et en instituerait de bonnes. » Un autre chroniqueur, en revanche, Adam d'Eynsham, nous montre le nouveau duc sous un jour beaucoup plus défavorable et il le montre en train de plaisanter avec ses amis au lieu de prêter attention au déroulement de la cérémonie, si bien qu'il laisse tomber la lance avec le pennon, symbole de l'investiture ducale. Mais Adam d'Eynsham écrit en fait son récit bien des années après le couronnement, après la perte des territoires en France, et fait de cet incident le présage, évidemment, de la perte de la Normandie. Et il ajoute, c'était la justice, puisque Dieu refuse de placer ses espoirs en celui qui est incapable de gouverner longtemps ses sujets. Alors ce couronnement donc de la fin avril 1199 fut sans doute précédé de tractations intenses, et un événement qui est assez révélateur des concessions que Jean dut faire à ce moment-là, c'est donc la concession, le 21 mai 1199, d'une charte de communes à la ville de Rouen, qui était donc certainement destinée à récompenser le soutien apporté par les Rouennais à la cause de Jean. Alors, on a voulu voir dans cette concession donc, d'une commune le fait que Jean était prêt à sacrifier les intérêts à long terme des Plantagenêts en faveur d'intérêts à court terme. Alors c'est peut-être le cas, et ce qui est certain, c'est qu'en 1191, dans sa lutte contre Guillaume de Longchamp à Londres, Jean avait concédé une commune à la ville de Londres. La commune de Londres date d'octobre 1191, sans se soucier sans doute des conséquences à long terme de cet acte. Mais je dois dire que la politique de Jean à l'égard des villes est très mal connue, il n'y a jamais eu de thèse sur cette question, et en fait il est tout à fait possible qu'il ait considéré comme important de développer de bonnes relations avec les élites urbaines. Et Giraud de Barry, qui est donc un clerc, un archidiacre gallois, proche de Jean Santerre, avant de prendre ses distances à la fin du règne, décrit dans une de ses œuvres comme étant de bonne politique le fait de fortifier des villes, mais aussi de leur accorder des libertés, parce que c'est ainsi qu'on peut mieux les encourager à se défendre. Donc il est tout à fait possible qu'en fait, cette concession reflète une réelle idée politique, une réelle pensée politique de la part de Jean. Alors Jean traversa ensuite la Manche et fut couronné roi d'Angleterre un mois plus tard, le 27 mai 1199. Et alors là, je repasse, voilà. Et oui, alors là, c'est son sceau, donc son premier sceau comme comte de Mortain. Mais en fait, ce qui est tout à fait curieux, c'est que la légende n'indique pas le comté de Mortain, mais uniquement le fait qu'il est fils du roi d'Angleterre et seigneur d'Irlande. Et ici, donc, vous avez le grand sceau de Jean sans Terre, donc fait après son accession, qui reprend le modèle des sceaux de son père et de son frère. Et sur la face du sceau, donc Jean est assis sur un trône, il est couronné, une épée dans la main droite, une orbe surmontée d'un sceptre dans la main gauche, et la légende dit, donc, Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande. Et au revers, alors je suis désolée parce que j'ai pas mieux comme image, hein, pourtant j'ai un petit peu cherché, vous avez le sceau équestre de Jean, donc qui brandit une épée et qui tient l'écu aux trois léopards. Et c'est sur le revers du sceau que vous avez donc la légende duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou. Alors, restez évidemment à convaincre Philippe Auguste, son seigneur pour les terres en France, de le reconnaître, alors non pas comme roi d'Angleterre, mais pour tous les fiefs qu'il tenait à l'intérieur du royaume de France. Alors, à l'exception de l'Aquitaine, puisqu'à ce moment-là, Aliénor est encore vivante, et Aliénor elle-même a prêté hommage à Philippe Auguste pour l'Aquitaine. Alors, le Capétien soutenait encore Arthur à l'automne 1199, mais Philippe Auguste, à ce moment-là, est lui-même dans une position délicate, à la suite de son refus de reprendre Ingeborg de Danemark, et puis il s'est remarié avec Agnès de Meran, donc une position difficile, et finalement, au début de l'année 1200, des tractations secrètes furent entamées entre les deux cours. Et pendant plusieurs mois, on a négocié ferme sur les termes d'un traité, alors que le pauvre Arthur était totalement lâché par Philippe Auguste. Alors, le résultat des négociations, c'est le fameux traité signé au Goulet, à côté des Anglis, le 22 mai 1200. Et là, par ce traité, le roi de France reconnaît enfin Jean comme le successeur de Richard, pour toutes les terres qu'il tient de lui dans le royaume de France. Et même Arthur doit désormais prêter l'hommage pour la Bretagne, non pas directement à Philippe Auguste, mais à Jean sans Terre comme duc de Normandie. Le pauvre Arthur s'est tourné vers les civilistes de Bologne pour essayer d'avoir un appui, un soutien intellectuel, et Azon, un grand civiliste bolognais, rend une quaestio en disant mais non, normalement, Arthur devrait tenir sa terre directement de Philippe Auguste. La cour de Philippe Auguste n'en a eu cure, hein, c'était une décision politique et Arthur a été sacrifié. Alors cette reconnaissance n'allait pas, malgré tout, sans concession majeure. Jean dut payer un énorme relief de 20 000 marques à Philippe Auguste donc pour accéder à ses fiefs, renoncer également à son alliance avec les comtes de Flandre et de Boulogne et surtout avec son neveu Othon, et puis céder à Philippe Auguste toute la région d'Évreux et le Vexin, sauf les Anglis et Château-Gaillard. Et finalement, il prêta serment de fidélité et l'hommage à Philippe Auguste. Alors, Jean lui-même semble avoir été assez satisfait des termes du Goulet, qui lui donnait enfin la sécurité dans la tenure des terres en France. Mais en revanche, cette décision, enfin, le traité a mécontenté une partie des seigneurs qui avaient des terres en Normandie et en Angleterre, qui considérait donc qu'il aurait mieux valu qu'il continue la lutte contre le roi de France. Et le surnom qu'il lui donnait à ce moment-là, semble-t-il, par certains opposants, c'est le surnom d'épée molle. Bon, c'est quand même pas très flatteur. Et les chroniqueurs français aussi soulignent ce qu'ils considèrent comme la lâcheté de Jean, qui sacrifia les droits de ses ancêtres et préféra acheter la paix plutôt que de combattre. Et il est possible que Jean lui-même et son entourage aient fait preuve d'une certaine naïveté. Philippe Auguste, en fait, attendait sans doute un moment plus favorable pour rompre les termes d'un tel accord et pénétrer en Normandie. Alors, à suivre les chroniqueurs, en fait, donc ça c'est la version civile officielle qu'on trouve un petit peu partout, c'est le mariage de Jean sans Terre, plutôt son deuxième mariage, cette fois avec Isabelle d'Angoulême, qui donna à Philippe Auguste le prétexte idéal pour intervenir. Alors, Jean donc était marié depuis 1189 avec une autre Isabelle, Isabelle de Gloucester, mais le couple s'entendait mal, hein, se sépara sans doute assez tôt, hein, en 1196, n'avait pas d'enfant. Et dès son accession au trône, Jean entreprend des démarches pour faire annuler son mariage. Et puis ensuite, il se lance dans des négociations avec le roi du Portugal pour épouser sa fille. Et finalement, alors que ses émissaires sont déjà partis au Portugal pour aller chercher la jeune femme, il change d'avis à l'été 1200 et jette son dévolu donc sur la fille du comte d'Angoulême, qui est toute jeune à ce moment-là, c'est une toute jeune adolescente, qu'il épouse le 24 août 1200. Alors, passion incontrôlable, hein, c'est ce que laissent entendre plusieurs chroniqueurs, hein, voir maléfice exercé par la jeune Isabelle. Donc Jean aurait rencontré la jeune fille pendant les négociations qui menèrent au traité du Goulet au printemps et aurait tout simplement perdu la tête. D'autant plus que Isabelle, en fait, était déjà fiancée à Hugues de Lusignan, un seigneur poitevin devenu depuis peu comte de la Marche. Et ce serait donc afin de venger cette insulte qu'Hugues de Lusignan se serait tourné vers son suzerain, donc vers Philippe Auguste, pour se plaindre, hein, de cette action. Et le roi de France, ce qui est certain, convoqua ensuite Jean pour répondre de la plainte de son vassal. Et c'est à la suite du refus réitéré de Jean de comparaître devant la cour à Paris que la cour de France finalement prononça la confiscation, ce qu'on appelle la commise, de toutes les terres de Jean dans le royaume de France le 28 avril 1202. Alors, je vais tout de suite revenir avec une carte sur les opérations militaires qui ont suivi la commise d'avril 1202, mais je voudrais d'abord m'arrêter un petit peu sur le mariage de Jean avec Isabelle d'Angoulême et ses conséquences. Alors, ce qu'on reconnaît depuis longtemps, c'est qu'un mariage entre les Lusignans, enfin une alliance entre les Lusignans et la maison d'Angoulême aurait été un désastre, hein, pour les Plantagenets, parce que cela aurait permis en fait la constitution d'une sorte de bloc territorial plus ou moins au milieu des terres plantagenées, rendant difficile la circulation entre les terres du nord de la Loire et les terres au sud. Et il était donc essentiel d'empêcher à tout prix ce mariage et puis également de renforcer la présence plantagenée dans cette région. Donc c'était finalement peut-être relativement judicieux. Et puis alors, par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que Philippe Auguste donna son accord au mariage. On dit toujours qu'il donna son concilium, c'est-à-dire il donna son accord. Et à l'été 1200, le couple, Jean et Isabelle, passa plusieurs semaines, reçues de manière fastueuse, à Paris. Bon. Alors, même si, en fait, Hugues de Lusignan se sentait insulté par l'action de Jean, même s'il fit bien appel à la cour de France, ça n'est pas en raison du mariage entre Jean et Isabelle. Mais ce fut pour protester contre les exactions de Jean. Parce qu'en fait, à la suite de ce mariage, Jean avait entrepris de renforcer sa puissance en Aquitaine de manière forte, militaire, mécontentant de nombreux vassaux et au premier rang desquels les Lusignans. Et c'est en réalité pour protester contre les excès de Jean qu'Hugues de Lusignan et son frère, qui est Raoul comte II par droit de sa femme, se tournent vers la cour de France. Alors, ce qui est indéniable, c'est que la politique de Jean vis-à-vis des Lusignans a été maladroite, elle a été mesquine, et puis il est sans doute aussi relativement naïf et face à Philippe Auguste. Parce qu'en effet, mis en demeure à plusieurs reprises de comparaître devant la cour de France, Jean pense qu'il est possible de traiter la question par des intermédiaires, et ces intermédiaires, en fait, négocient à Paris, non pas tellement sur le contenu de la convocation, mais sur le fait de savoir si Jean doit comparaître sur la frontière En Marche ou à Paris même. Hein, donc c'est l'essentiel des négociations. Et pour finir, Philippe Auguste, donc, au moment où il va prononcer la commise, rompt les négociations de manière complètement unilatéral, et la cour de France condamne Jean non pas pour des faits particuliers, non pas parce qu'il a mal agi vis-à-vis des Lusignans, etc., mais pour désobéissance générale à son seigneur. Et Jean a été complètement pris de court par Philippe Auguste. Il ne s'attendait pas en fait à cette décision, et on le voit dans des lettres qu'il envoie quelques temps après à ses administrateurs en Angleterre, où il se plaint de ce qu'il a toujours agi lui-même avec humilité, avec mesure, et il se plaint de l'orgueil de Philippe Auguste et de son refus de faire la paix. Et il y a aussi une lettre qu'il envoie aux Cisterciens, où il se plaint de ce que le roi de France a toujours voulu le déshériter de toutes les manières possibles. Alors, la mauvaise foi de Philippe Auguste était certaine. Dans les semaines qui ont suivi la commise, le roi de France fait pénétrer des troupes qui étaient en fait déjà prêtes, qui étaient massées près de la frontière en Normandie. Les troupes prennent Boutavant, ensuite Gournay, et Philippe Auguste, à ce moment-là, reconnaît à nouveau Arthur comme le successeur de Richard, pour l'Anjou, le Maine, la Touraine, l'Aquitaine, à titre prospectif, puisque Aliénor est encore vivante, mais le duché de Normandie n'est pas concédé à Arthur, puisque Philippe Auguste entend se le réserver pour lui-même. Alors, au cours des opérations militaires qui ont suivi la commise, qui s'étendent en fait à la Normandie, mais également à la vallée de la Loire et au Poitou, Jean s'est illustré par un coup d'éclat. C'est le fameux coup d'éclat de Mirebeau, le 1er août 1202, où il parvient à faire prisonnier Arthur et tout un groupe de nobles poitevins. Et alors là, oui, j'ai finalement une carte. Alors que j'ai faite pour le livre. Alors j'espère que c'est... parce qu'il y a une carte que j'avais corrigée, que c'est bien la bonne carte. Enfin, j'ai fait de mon mieux pour essayer de rendre compte du mouvement des troupes. Mais en Normandie, son repli sur la partie occidentale du duché permit en fait au roi de France de pénétrer profondément dans le territoire ducal et de s'emparer du réseau de fortifications qui défendait les approches de Château-Gaillard. Et dans les premiers mois de l'année 1203, il y a une inquiétude, une sorte de fébrilité autour de Jean. Les défections se multiplient. Tout d'abord, Guillaume Desroches, qui est mécontent du sort qu'on a réservé aux prisonniers après Mirebeau. Puis, évidemment, la trahison, la fameuse trahison de Robert de C, comte d'Alençon, qui déjeune avec Jean sans terre et dans l'après-midi même, qui le trahit, qui part auprès de Philippe Auguste. C'est quand même un choc pour le pauvre Jean. Et puis, la reddition sans aucune défense du Vaudreuil en juin 1203. Tout cela, c'est quand même le signe d'une désaffection grandissante en Normandie à son égard. Alors, Jean n'avait plus non plus les moyens militaires et financiers nécessaires pour lutter contre Philippe Auguste, une situation qui était aggravée par le fait qu'il était largement dépendant de troupes mercenaires. Et par exemple, il a été à ce moment-là incapable de faire lever le siège de Château-Gaillard par les troupes capétiennes, et il échoue également à l'été 1203 dans son offensive contre Alençon. Et alors finalement, à la fin de l'année 1203, Jean, qui est acculé et puis qui a le sentiment que l'atmosphère autour de lui est tout à fait délétère, il a peur pour sa sécurité. Il ne faut pas oublier que son propre frère avait été quand même prisonnier, rançonné, avait passé un certain temps en prison, décide donc en décembre 1203 de rejoindre l'Angleterre. Alors, dans son esprit, dans l'esprit de Jean, il s'agissait sans doute de revenir assez rapidement en Normandie avec de l'argent et des troupes fraîches, mais évidemment, le départ a été interprété comme une fuite. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est que la garnison de Château-Gaillard ne s'est pas rendue tout de suite. C'est le fameux siège, évidemment, de Château-Gaillard. La garnison a essayé de tenir le plus longtemps possible, et il a fallu, bien sûr, un très long siège et un assaut final, donc, dont le succès a été rendu possible, en fait, par les faiblesses de cette légendaire forteresse, pour que celle-ci tombe enfin, après beaucoup de souffrances, pour la garnison et pour la population des Anglis, le 6 mars 1204. Alors, on dit souvent que la chute de Château-Gaillard a été un choc pour Jean, mais en fait, celui-ci, semble-t-il, avait envoyé des lettres à la garnison qui ont été interceptées par les troupes capétiennes, des lettres où il conseillait à la garnison de se rendre en cas d'impossibilité d'être secourue. En tout cas, la chute de Château-Gaillard sème la panique, c'est le signal de la fin. Les troupes capétiennes contournent les défenses de la Touque, opèrent leur jonction avec les Bretons, alors là je retourne à ma fameuse carte, et ensuite la chute d'Argentan, de Falaise, de Caen, du Mont-Saint-Michel et d'Avranches conduisent les défenseurs, donc de Verneuil, d'Arc et de Rouen, à passer un accord au début du mois de juin 1204 avec les troupes françaises. Et l'accord spécifiait que sans aide militaire dans les 30 jours, les trois places se rendraient. Et puis en fait, on n'a même pas attendu les 30 jours. Hein, Rouen a capitulé le 24 juin. Et à partir de ce moment-là, bon, il ne restait plus qu'à Philippe Auguste de terminer la conquête de la Normandie. Et ni Jean ni ses successeurs, en fait, jusqu'au XVe siècle, n'ont pu reprendre pied en Normandie. Alors pour les chroniqueurs, la défaite de Jean en Normandie, c'est vraiment le reflet de son incapacité. Et certains récits sont d'ailleurs clairement composés dans le but, donc on va composer un portrait de Jean dans le but de justifier ses revers. Enfin, on va justifier donc les revers par les vices de Jean. Alors, chez les chroniqueurs français, c'est tout à fait patent. Guillaume le Breton, par exemple, est extrêmement virulent à l'encontre de la personne de Jean. Et ça s'explique sans doute par le désir de justifier la commise de 1202, puis le rattachement du duché de Normandie au domaine royal. Alors, les chroniqueurs français sont d'ailleurs les seuls à jouer sur le surnom Santerre, qui en fait avait été donné à Jean par son propre père en 1170. À ce moment-là, Henri II dresse un premier testament et il laisse le tout jeune Jean en dehors du partage. Et il lui donne un peu par moquerie le surnom de Santerre, qui est très très peu utilisé en Angleterre, mais qui ensuite est utilisé massivement par les chroniqueurs français et les historiens français. Nous, on parle de Jean Santerre. C'est assez rare en Angleterre, on dit King John, Prince John, John Lackland un petit peu, mais c'est assez rare. Donc c'est plutôt une spécificité française. Et puis en Angleterre, alors les chroniqueurs aussi sont de plus en plus virulents avec le temps, quand on s'aperçoit finalement dans les années 1220-1230 que la perte de la Normandie, de ce joyau, est définitive. Hein, voilà, on va modifier le portrait de Jean de façon à le montrer comme méritant finalement ce châtiment. Alors les plus virulents, ce sont les chroniqueurs du monastère de Saint-Albans au nord de Londres, donc le fameux Matthew Paris et son prédécesseur Roger de Wendover, et qui sont d'une violence verbale incroyable. Hein. Roger de Wendover, dans les années 1220-1230, dit que la défaite de Jean Normandie s'explique par sa cupidité, sa paresse et son inaction. Plutôt que de porter secours au sujet normand, il a préféré jouir de son nouveau mariage et puis a placé tous ses espoirs dans les richesses qu'il avait accumulées. Et Matthew Paris, qui reprend le texte de Wendover un peu après, mais en forçant encore le trait, croque le portrait de Jean qui, tous les jours, banquette avec Isabelle d'Angoulême et qui reste au lit jusqu'à l'heure du déjeuner. Alors, ces chroniqueurs, en fait, faisaient aussi œuvre d'édification à destination d'une communauté religieuse. On trouve beaucoup de références aux Écritures dans ces chroniques. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de déroulement de l'histoire dans la main de Dieu. Donc, l'histoire montre la main de Dieu en action. Et dans ce schéma, évidemment, le roi, bon ou mauvais, accomplit la volonté divine. Alors normalement, un roi mauvais reflète les péchés de son peuple, qui reçoit ce fléau pour le corriger, mais dans le cas de Jean, c'est encore plus fort, parce que le sentiment qu'on a, c'est que ce roi malchanceux dans ses entreprises est puni de son vivant même pour ses péchés. Et par exemple, une chronique un peu plus tardive, la chronique de la Norcos, dit que le Christ a envoyé de nombreux tourments à Jean, car il est juste que toute chose s'oppose à l'adversaire de Dieu. En d'autres termes, un roi malheureux ou malchanceux ne peut être que coupable. Et du coup, on comprend que les chroniqueurs n'hésitent pas à adapter leur récit de manière à ce que les défauts de ce roi perdant correspondent au septenaire des vices, donc orgueil, envie, colère, avarice, gourmandise, luxure, assédie. En fait, Jean les a tous sans problème. Donc l'échec de Jean s'explique par ses vices, si on retourne à ses chroniqueurs, et il s'explique aussi par ses crimes, évidemment. Et il faut revenir ici sur le sort réservé au jeune Arthur, après sa capture à Mirbeau. Alors, Arthur fut d'abord enfermé au château de Falaise, sous la garde de Hubert de Bourg. Et là, vous avez une superbe peinture du XIXe siècle qui vous montre un très jeune Arthur, qui est un peu plus, à ce moment-là, il a quand même 16 ou 17 ans. Un très jeune Arthur et Hubert de Bourg, à qui on vient de donner l'ordre en fait, de mutiler Arthur. Elle envoie la corde sur le sol. Hubert de Bourg, évidemment, qui n'a pas très envie d'agir ainsi. Et il y a certainement des dissensions dans l'entourage royal, parce qu'ensuite, Arthur est transféré à Rouen sous la garde de Guillaume de Briouze, et puis ensuite, il disparaît mystérieusement en avril 1203, sans que personne ne sache véritablement ce qui lui est arrivé. Alors, dans les chroniques rédigées dans l'entourage de la cour capétienne, et puis également dans les annales de Margam. L'abbaye de Margam était assez proche de la famille de Briouze, donc il y a peut-être une rumeur là qui a circulé. Jean est accusé d'avoir porté lui-même la main sur son neveu enfermé à Rouen. Alors, certains chroniqueurs hésitent, hein, par exemple l'abbé de Cockshall, et même les chroniqueurs de Saint-Albans, qui pourtant sont très hostiles à Jean, rapporte plutôt ça comme une rumeur. Par exemple, Mathieu Paris dit que personne ne sait ce qu'Arthur est devenu, et puis il rapporte les différentes rumeurs au sujet de sa disparition. Il dit qu'il serait mort en tentant de s'évader, son corps n'a pas été retrouvé, ou bien il aurait dépéri par désespoir. Mais il dit les Français, en revanche, disent qu'Arthur a été tué par Jean lui-même ou sur son ordre, mais il ne faut pas les croire parce que c'est de la diffamation. Mais à la fin du XIIIe siècle, en Angleterre, tous les chroniqueurs présentent la disparition d'Arthur comme étant due à Jean lui-même. Et ils se font donc le relais de l'accusation de meurtre. Par exemple, vous avez une chronique qui montre Jean faisant disparaître Arthur en mer avec la complicité de Robert de Vieuxpont et puis d'un meunier. Une autre chronique qui rapporte que Jean donne l'ordre de faire assassiner Arthur et ensuite de jeter son corps à l'eau. Et vers le début du XIVe siècle, il y a même une compilation juridique faite à Londres qui donne un récit circonstancié de l'acte, et je cite, « Ce roi captura son neveu, le fils de son frère aîné Geoffroy, comte de Bretagne, qu'on appelait autrefois Armoric, appelé Arthur. Par la suite, il le tua de manière cruelle, n'épargnant pas sa chair et son sang, en le transperçant de sa propre main d'une épée par le milieu du corps, celui-ci étant dans les fers, alors qu'ils naviguaient ensemble dans une embarcation. » Et alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que ce texte est écrit sur le même feuillet qu'une très très belle image qui montre Jean sans terre en train de chasser. Et en fait, en dessous, je n'ai pas pu avoir l'intégralité de l'image, vous avez un diagramme généalogique qui montre la descendance de Jean sans terre. Alors, je me suis dit au début, il y a un hiatus entre cette image et puis le texte qui l'accompagne, qui se trouve juste sur la colonne de gauche. Il y a un petit problème. Et puis, en fait, la rubrique, le texte qui est juste au-dessus, les deux vers qui sont au-dessus de l'image, établissent un lien direct entre ce crime, les vices de Jean et la perte des terres en France. Et alors, je vous le traduis. Sous Jean, pendant les années de Jean, la Normandie fut sans défense, lui parce qu'il fut en faute, qui abandonna ses possessions aux Français. Et la représentation de Jean en chasseur suggère bien qu'il néglige sa tâche de gouvernant pour s'adonner aux délices de ce loisir. Alors, pour conclure, que penser du lien entre la perte de la Normandie et l'image de Jean, et que penser de l'action de Jean dans le duché et des raisons de son échec? Alors, pour certains historiens, donc la plupart des historiens, ce sont les erreurs personnelles de Jean et son incapacité à gouverner qui expliquent la perte de la Normandie. Alors, certaines erreurs sont ponctuelles, elles relèvent de la tactique militaire, d'autres sont beaucoup plus structurelles. Et une étude publiée il y a quelques années par Nicolas Vinson sur Jean, comte de Mortain, rappelle donc son indifférence à la Normandie, son absence de politique en matière de construction de réseaux. Et Jean, donc, n'a pas su se créer les fidélités nécessaires qui lui auraient permis, en fait, de se maintenir dans le duché. Et ce qui est certain, c'est que beaucoup avaient le sentiment que Jean n'était pas là pour les soutenir. Les exactions aussi des troupes mercenaires de Jean durent jouer un certain rôle. Alors, Jean eut aussi quand même la malchance de trouver face à lui Philippe Auguste, un adversaire qui était extrêmement déterminé à faire jouer tous les leviers pour mettre la main sur la Normandie et pour mettre fin à la menace que représentait en fait la présence du Plantagenet dans une région aussi proche du cœur de son pouvoir. Est-ce qu'on peut aller plus loin et considérer que la structure même de l'héritage plantagenet était fragile? Non, je ne vais pas retourner, car elle est trop loin. mais déjà sous les rois normands, donc avant l'avènement d'Henri II, tenir en même temps la Normandie et l'Angleterre avait été une entreprise extrêmement difficile. Et Étienne de Blois, donc, qui avait saisi le trône à la mort d'Henri Ier, n'avait pas su faire reconnaître sa domination sur la Normandie. Il avait dû lâcher la Normandie en 1137 en faveur en fait, du comte d'Anjou. Et sous Henri Ier, la fameuse grande révolte donc de 1173-1174 avait souligné qu'il existait des lignes de fracture très fortes à l'intérieur de cette domination. Alors, je pense qu'Henri II rêvait d'une domination impériale. Très certainement, c'était son projet, mais il y avait un obstacle de taille quand même, c'est qu'il était, pour les terres en France, le vassal de Philippe Auguste, enfin d'abord de Louis VII et ensuite de Philippe Auguste. Et en 1183, il avait bien prêté l'hommage au jeune roi Philippe Auguste pour ses fiefs dans le royaume de France. Et un historien contemporain, le doyen de Saint-Paul de Londres, Raoul de Dissé, dit « Le projet d'Henri II, au fond, dépendait de la paix avec la couronne de France. » Alors, tenir ensemble les parties de la domination représentait quand même, alors en cas de conflit avec le Capétien ou même sur place, un effort militaire et financier considérable. Et dans un monde où gouverner signifie en fait gouverner avec les élites, il fallait bien que le prince développe des liens personnels avec la noblesse locale. Or, le prince, dans cet immense ensemble, il est souvent très loin. Et même à la cour d'Henri II, ça, à nouveau, Nicolas Vincent l'a bien montré, il y avait assez peu de Normands. Et Henri II également a sans doute commis l'erreur de considérer ses fils de manière interchangeable. Par exemple, à un moment donné, il demande à Richard de lâcher l'Aquitaine pour prendre la Normandie, alors que Jean aura l'Aquitaine. Évidemment, ce genre de décision conduisait à déstructurer complètement les réseaux de fidélité qui étaient normalement fondés sur le charisme et l'amitié. Alors, ce qui est également révélateur, c'est la concession de la Grande Charte, parce que la Grande Charte, c'est quand même la communauté du royaume d'Angleterre qui obtient cette concession majeure, et on voit bien que cette communauté ne dépasse pas véritablement les limites du royaume. Alors, donc il y a toute une série de facteurs qui certainement, structurellement, expliquent la difficulté que Jean éprouva à tenir ensemble toute cette domination. Ça ne veut pas dire qu'il ne conserva pas donc, jusqu'au bout l'espoir de reprendre les terres en France. Après 1204, quasiment tous les ans, il monte une expédition militaire sur pied. Il a quelques réussites dans le Poitou, mais la Normandie demeure hors d'atteinte. Et c'est peut-être pour finir son tombeau, qui aujourd'hui encore est dans la cathédrale de Worcester, juste devant le grand hôtel, alors qui est aujourd'hui, qui a cette apparence-ci, c'est du marbre noir de Purbeck, mais il a été gratté en fait à la fin du 19e siècle. Le tombeau d'origine devait ressembler à ce petit dessin ici qu'on a coloré des années 1830, qui vous donne un petit peu une idée de l'aspect d'origine. Et ce qu'on voit, donc cette effigie a été élaborée donc sur l'ordre d'Henri III, hein, le fils de Jean Santerre, c'est que vous avez le roi avec son épée qui est sortie hors du fourreau. Or ça, semble-t-il, c'est un type de représentation tout à fait exceptionnelle. La pointe de l'épée s'enfonce dans la gorge d'un lion. Une représentation exceptionnelle qui continue donc à susciter les interrogations des spécialistes. Alors, peut-être un rappel de l'idéal de croisade. Hein. Jean Santerre s'est croisé au printemps 1215. Il n'est jamais parti en croisade, mais plusieurs membres de son entourage sont partis en croisade, sans doute pour accomplir le vœu de croisade à sa place. Mais c'est peut-être aussi, pour finir, une manifestation de son désir de combattre pour reprendre la Normandie. Voilà. Merci beaucoup. Thank you.